Bonjour. Pour beaucoup, le vin est un plaisir. Pour certains, un passe-temps, un hobby, voire même une passion. Et pour d'autres, le vin est un véritable métier. Ils sont vigneronnes et vignerons, bien sûr, mais aussi sommeliers, sommelières, cavistes, agents, grossistes, journalistes, communicants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sommeliers et aux sommelières. Aujourd'hui, il sera question de formation de ces sommeliers. Comment apprendre le vin? Par quoi commencer? Quel vin? Quel cépage? Comment donner le goût du vin? Et pourquoi pas la passion, celle qui nous anime et nous fascine, qui rend ce sujet si savoureux. Ce 56e épisode se nomme « À l'école du vin ». Bienvenue dans la Terre à boire. Et nous sommes donc en compagnie de nos terraboirologues habituels. Florence Aragoni, bonjour.
Bonjour.
Patrice Defay, bonjour.
Bonjour.
Et Laurent Delceau, bonjour.
Bonjour.
Et nos invités, je suis ravi d'accueillir, honneur aux dames, Cassandra Delorme, bonjour.
Bonjour.
Tu es étudiante et tu viens de boucler une mention complémentaire en sommellerie.
Oui.
C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Tu vas nous parler un petit peu de ça, de tes études, de comment ça s'est passé et de ce que tu en retires une fois les études terminées. Et l'étudiante, ça ne suffit pas. On a aussi le professeur en la personne d'Alexandre Le Sieur. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre, merci d'être ici. Toi, tu es professeur de sommellerie.
Exactement.
Donc, tu vas pouvoir tout nous dire sur la façon d'appréhender ce sujet du vin, qui est quand même un sujet un peu à part. Hein,
assez effrayant pour les jeunes qui ne s'y connaissent pas. Pour rentrer dans le domaine du vin, c'est assez effrayant au départ. Et après, ça devient un plaisir de connaître le vin. Donc, voilà.
Voilà, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, en dégustant des vins. Hein, c'est un peu notre habitude. Et de parler donc de formation. On déguste des vins. Alexandre, tu es venu avec un vin.
Je suis venu avec un de mes coups de cœur, car j'adore travailler avec eux. C'est le Dom Paris, pardon, de la winerie parisienne.
On va enfin goûter ce truc-là dont on entend parler.
Ce truc-là, un truc pas mal. Mais pourquoi un coup de cœur? Parce que on m'a demandé d'apporter un vin pédagogue.
Ouais.
Quoi de mieux que côté pédagogique que montrer que l'Île-de-France était un des vignobles les plus étendus il y a très longtemps, qu'on a abandonné. Au final, on va voir que ça nous donne des produits qui sont pas trop mal, pas mal du tout, au contraire. Et voilà, donc petit coup de cœur pour la winerie parisienne.
Donc, winerie parisienne, pour moi, c'est des gens qui ont installé un chai dans Paris, qui jusqu'ici, ou même en banlieue, c'est à Montreuil,
c'est ça, exactement.
Ouais, proche banlieue, et qui vinifient des raisins. Mais de ce que j'avais entendu, c'était des raisins qu'on achetait et qui avaient grandi en Languedoc ou dans des régions françaises.
Exactement.
C'est ça.
C'est des raisins qu'on grandit dans le Languedoc, qu'ils ont racheté et qu'ils ont vinifié à Montreuil. Et cette année, ils vendangent pour la première fois. Les premières vendanges commencent le 20 septembre, si je ne me trompe pas. Et ils vont enfin vendanger des vins, des raisins qui sont d'Île-de-France pure et vinifiés. Voilà. Directement.
Donc là, on sera enfin en présence d'un vrai vin parisien, entre guillemets, d'Île-de-France, de région parisienne.
L'un des vins. Parce que j'ai un autre petit coup de cœur que je n'ai pas pu ramener aujourd'hui, qui est le Coteau de Suresnes. Petit coup de cœur chaque année, mes apprentis, hormis l'année dernière, on va vendanger une journée les Coteaux de Suresnes.
Mmh. Château Clamart est très bien. Non, c'est une blague.
Ouais, Château Clamart, c'est ça. Mais voilà, où on va vendanger pendant une journée les vins du Coteau de Suresnes.
Qu'est-ce qu'on fait comme vin à Suresnes?
Chardonnay. Principalement.
Chardonnay.
Ouais. Et en fait, ce qui donne des vins, quand on parle de vins d'Île-de-France, à la base, c'est très effrayant. En fait, un vin d'Île-de-France, on va dire quelle est la typicité. Et quand on découvre ces vins, quand on goûte ces vins, on remarque que c'est quand même très. C'est des vins corrects. Des vins,
alors, au cas où on serait écouté par des gens qui n'habiteraient pas Paris, hein, comme ça, il y a un tiers des gens qui nous écoutent, ouais, qui sont en dehors de France même. Suresnes, c'est juste une ville qui est à l'ouest.
Sud-ouest.
L'ouest parisien, sud-ouest, légèrement sud-ouest, ouais. Effectivement, il y a des coteaux, ça monte, hein, pour aller.
Exactement.
À Suresnes, le Mont Valérien, tout
Mont
ça.
Mont Valérien.
Voilà, d'accord. Et mais moi, j'ignorais qu'il y avait des vignes à cet endroit-là.
Il y a des vignes, il y a même des vignes avec une très belle vue quand il fait beau sur Paris. J'ai plein de photos de
ah bah là, la vue du Mont Valérien, c'est une des plus belles vues qu'on puisse trouver sur Paris, hein, quand on est tout en haut là.
On va dire que on est C'est un des rares vignobles de France où on peut vendanger en ayant un œil sur la Tour Eiffel et sur Paris en même temps.
Sans doute.
On va dire parce que...
Ça, c'est sûr.
Oui, c'est un peu plus compliqué ailleurs, mais là, quand la vue est bien, il faut le reconnaître. Et quand le vin est bon, il faut le reconnaître aussi. Et que ce soit la winery parisienne ou les vins de Suresnes, on est sur de très beaux, des beaux produits pour moi qui permettent de découvrir les vins de l'Île-de-France. Voilà.
Alors ça, c'est un pétillant.
Oui.
Donc, c'est ce que tu as appelé la cuvée
Dom Paris.
Dom Paris.
Le Dom Paris de la winery parisienne. On est sur un 100% Vermentino.
Ah, cépage corse.
Cépage corse. Donc, voilà comme quoi on prend les cépages d'ailleurs pour les vinifier en Île-de-France.
Alors, ils auraient pu l'appeler ça Roll. Pourquoi ils appellent ça Vermentino?
Bonne question.
Parce que le Roll est dans le sud. Non, mais bon, après,
ouais, c'est vrai. Pour
le... ils ont pris le côté écorce. Alors, peut-être qu'il y a une évolution du Roll en Corse. Alors, pour avoir vu des Corses cet été, rapidement, il paraît qu'il y a une vraie différence.
Patrice entre la... et ses Corses.
Non, il y a une vraie différence entre la Malvoisie, par contre, et le Vermentino. Par contre, il n'est pas censé y avoir de vraie différence entre le Roll et le Vermentino bien en termes de filiation, on va dire, génétique. Bon, après c'est plus des débats que des vrais problèmes. Mais donc, du coup, ils ont pris plutôt une appellation Vermentine que Roll.
Peut-être. Exactement. Et je trouve plutôt ce vin agréable en apéritif. En apéritif, même sur quelque chose d'un petit peu citronné en amuse-bouche ou en entrée pour commencer un repas, tout simplement. Un de mes petits coups de cœur. Je sais que ça peut déplaire peut-être à certaines personnes qui découvrent les vins d'Île-de-France, mais moi j'aime bien sortir des sentiers battus et. Et être différent, apprendre différentes choses à mes apprentis, en tout cas en sortant, en découvrant des vins d'Île-de-France ou autres.
Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur ce vin, une surprise, une découverte, un vin pétillant?
Moi, j'étais allé goûter leur vin, oui. Si, si.
À la winery?
Oui, tout à fait.
Alors
j'aime bien le concept, effectivement, de vouloir développer la image des vins d'Île-de-France. Après, je trouvais que c'était plus une approche un peu touristique qu'une approche authentique, mais voilà.
Alors, par rapport à ça, juste parenthèse, il y a dans le monde de la bière un énorme mouvement qui est déjà à plusieurs années, hein, qui a plus de 10 ans, des microbrasseries et qui se développent. Aujourd'hui, il y a des brasseries partout dans le monde, dans toutes les villes ont leur bière. Il y a des microbrasseries, c'est vraiment la tendance de fond dans le monde de la bière. Il y a, semble-t-il, en Amérique du Nord, un mouvement de micro-winery. Donc de gens qui achètent comme ça du raisin et qui font des vins en territoire urbain. Ces gens de la winery parisienne sont un peu des pionniers en la matière. Est-ce que vous pensez
c'est
que c'est une tendance qui va
se développer? C'est peut-être une tendance moderne du vin.
qu'on aurait pu intégrer dans l'épisode précédent.
C'est une tendance après, effectivement.
J'ai l'impression que ça nous éloigne un peu du terroir. Quoi.
Pour paraphraser, c'est pas moi la lobby du roi. Les winemakers, c'est les levures, hein, c'est pas les gens qui font le vin. Donc le vin se fait au niveau du terroir. Après, c'est intéressant qu'on pousse cette logique-là et que du coup, on essaie aussi de faire des vins à Paris. Puisque là, et pour le coup, c'est au moins, ils ont l'avantage d'aller au bout de leur logique. Après, c'est sûr, quand on emprunte carbone, quand on prend des vins du Languedoc pour les vinifier à Paris, là, c'est un petit peu du marketing, on va dire, si on travaille bien. Donc là, on est vraiment dans la logique de. Winemaker, maintenant s'ils vont jusqu'au bout de la logique et dire ok on fait du chardonnay sur les coteaux de Suresnes et puis on fait
c'est dans les Yvelines là non leur, ce qu'ils ont planté hein, je crois
de les prochaines vendanges
ouais pense. C'est dans les Yvelines hein.
Enfin, au moins ils vont au bout de la logique quoi. C'est, bon, on peut leur reconnaître
après,
effectivement ça
ce sont de entre la winery et les Suresnes voilà, on est sur deux choses différentes. Et voilà. Donc c'est
alors, entrant dans le vif du sujet, des vins, toute la complexité d'apprendre le vin. Alors, du point de vue du professeur, du point de vue de l'élève, toi Alexandre, en tant que prof, le premier contact avec des étudiants qui arrivent, qui sont là pour passer un diplôme, on va parler des diplômes et des différents diplômes possibles, mais et j'ai envie de commencer avec ça. Est-ce qu'il y a un vin, est-ce que peut-être ce vin-là est-il l'exemple d'un vin par lequel tu commences l'année en disant bah, « Allez-y, vous ne faites pas des études comme les autres, vous faites des études dans lesquelles vous allez déguster des vins. Commençons par celui-là. Est-ce qu'on prend un monocépage? Est-ce qu'on prend un vin du Sud? Est-ce qu'on prend un vin très expressif pour que ce soit clair? Est-ce qu'on change à chaque fois pour ne pas s'ennuyer ?»
Je commencerai plutôt par un monocépage pour commencer, afin de pouvoir repérer les cépages de base, du chardonnay par exemple, pinot noir, je donne deux exemples comme ces deux-là.
C'est la base de savoir comme ça discerner un pinot noir d'un grenache.
C'est la base. Voilà. C'est la base. Après, moi en tant que formateur, je n'insiste pas forcément sur le fait de vraiment que mes apprentis reconnaissent tel et tel vin à l'aveugle. À partir du moment où la mention complémentaire demande juste à décrire le vin et pas forcément à le reconnaître à l'aveugle, ils le reconnaissent, c'est très bien parce que ça veut dire qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes professionnellement parlant. Et sinon, je ne les force pas à reconnaître le vin à l'aveugle tout de suite, mais à reconnaître les principaux cépages, chardonnay, pinot noir, les classiques, voilà.
Cassandra, du point de vue de l'élève, quand on commence, donc toi tu as fait une mention complémentaire, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une mention complémentaire, mais le premier jour où tu arrives, donc tu commences des études qui sont spécifiquement dans le vin, est-ce que tu as le souvenir comme ça des premiers vins qu'on vous a fait déguster, étudier? Non, peut-être pas.
Hein. Non, pas spécialement. Non,
pas spécialement. Alors dis-nous plutôt dans quel état d'esprit tu étais quand tu as commencé cette mention, avec quelle idée que tu avais en tête de commencer cette formation en sommellerie. Pour être sommelière,
Avant de commencer la formation, je savais déjà, d'ores et déjà, qu'il y avait énormément de choses à apprendre, à connaître. Le vin, c'est un domaine extrêmement large. Quand on parle de géologie, ou quand on parle de raisin, ou qu'on arrive à la finalité d'une bouteille, il y a toutes ces étapes qui prennent énormément de temps à assimiler. Donc je savais dès le début. Après, c'est vrai que dès l'instant qu'on apprend à goûter le vin, on assimile les choses peut-être un peu plus facilement, les connaissances, au fur et à mesure.
Oui, il y a une question par rapport à ces apprentissages, comme tu dis, qui sont nombreux. Et non seulement l'apprentissage est large, de point de vue académique, il y a énormément de choses à savoir. La géographie, la géologie, les cépages, etc. Et aussi, vous devez forcément lier l'académique et le sensoriel. C'est-à-dire qu'on est censé connaître des choses sur le vin, puis on est censé les retrouver quand on goûte. Et alors, comment on fait passer cette dimension-là, Alexandre? Est-ce que tu as des trucs?
Simplement, moi, j'invite mes apprentis à goûter tous les vins qui croisent au coin d'une rue, si je peux dire ça comme ça. Le premier vin qu'ils croisent, ils le goûtent afin de le découvrir et de pouvoir mettre, des mots sur un vin qu'ils ont dégusté ou sur un cours théorique donné. Si on parle du chardonnay, en Bourgogne, on dit qu'il y a une telle typicité en théorie et en pratique, ils doivent le redécouvrir par la suite. Voilà, c'est entre guillemets le but du jeu de la formation.
Ce qu'on appelle les caractéristiques variétales, quoi, ce qui est propre à chaque cépage.
Mention complémentaire, on fait juste un petit peu de vocabulaire et de pédagogie, mais mention complémentaire, c'est donc un diplôme qu'on passe pour être sommelier quand on a déjà commencé des études dans le domaine de la restauration, c'est ça?
Absolument, préalablement, on peut réaliser une mention complémentaire tout de suite après un BEP ou un CAP.
Donc toi, c'était ton cas, Cassandra?
Moi, non, pas du tout.
D'accord.
Je sortais d'une licence.
Tu sortais d'une licence?
Une licence professionnelle.
Dans quel domaine?
En gestion des établissements de restauration.
D'accord.
Donc j'avais déjà un petit passé en restauration, j'avais fait un BTS et un bac pro.
Et du coup, mention complémentaire pour devenir sommelier. C'est vraiment cette profession de sommelier qui t'intéressait au début quand t'as commencé tes études, ou c'est juste apprendre sur le vin?
Pas du tout, c'était pour avoir les connaissances, un maximum de connaissances sur le vin pour accéder à un master, moi, qui m'intéressait dans la suite de mes études, dans la continuité.
D'accord, donc master plutôt dans des université, en école de commerce, ce genre de choses?
Dans une école de commerce, oui, dans le commerce du vin. Tout simplement.
Et tu as déjà un job en tête, un métier que tu aimerais faire dans cet univers-là, que tu vises?
J'aimerais bien être courtière ou négociante.
Ok. Dans le négoce.
Dans le négoce. Après, il y a un grand panel de métiers, il y a énormément de métiers dans le domaine, donc
bien sûr.
Je verrai par la suite.
Et alors, juste pour faire la genèse, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au vin? Tu viens d'une famille qui est déjà dans le vin, ou pas du tout? C'est quelque chose qui t'a...
Pas du tout.
Qui t'inspire?
C'est moi, toute seule. J'ai fait le choix d'aller dans le vin toute seule, puis d'apprendre sur le tas.
Ok. Alexandre, les profils des étudiants que tu vois passer, c'est extrêmement varié, j'imagine.
C'est
tu vas
extrêmement
me dire.
Varié. En fait, c'est le plaisir d'enseigner en mention complémentaire en sommellerie. En fait, c'est qu'à la première minute de cours, on a tout profil. On a tout profil, on peut avoir des licences, on peut avoir des BTS, on peut avoir des cuisiniers, on peut avoir des CAP, des bacs, des BTS, on peut avoir tout profil, ce qui fait que il y a un très beau mélange à l'arrivée de la formation, ce qui peuvent, comme ça ils peuvent échanger. Moi j'adore donner des cours de mention complémentaire en sommellerie à des cuisiniers. Parce que je trouve que la formation se complète plutôt bien. Après, c'est dommage, il y a certains domaines comme la pâtisserie ou la chocolaterie où on ne peut pas poursuivre avec une mention complémentaire en sommellerie. Mais voilà, ça serait bien qu'à l'avenir, on développe le côté liaison entre tous ces métiers et le vin. Je sais qu'avec un de mes collègues formateurs de l'école, en chocolaterie, justement, on va faire une co-animation entre le chocolat et le vin et vice-versa, afin de pouvoir échanger là-dessus. Mais le plaisir d'enseigner, c'est d'enseigner à tout profil différent. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant dans ce milieu-là, comme Cassandra, qui a réussi très bien ses examens, justement. Donc voilà.
Et du coup, quand on fait cette formation-là, c'est quoi la partie théorique et la partie pratique? C'est-à-dire qu'il faut dire, allez, 50% théorique et 50% il faut goûter pour arriver à un certain niveau, entre guillemets, de compréhension physique des vins.
La difficulté avec le métier de sommelier et cette formation-là, en fait, c'est qu'on condense tout le savoir, on essaie de condenser tout le savoir en un an de formation. Alors qu'on sait très bien que tous autour de cette table-là, le vin, c'est tous les jours et toutes les années. Et à la minute, on apprend tous les jours sur le vin. C'est la difficulté. Après, on va dire que ça va être 50-50. Il y a 50% de connaissances où on est obligé d'avoir des connaissances pour répondre aux sujets écrits qui seront posés ou lors de la pratique en commercialisation, lorsque le jury va poser des questions un peu techniques sur le vin qui a lors de la commercialisation. Et il y a une petite partie pratique, pardon, avec le carafage, le décantage, l'ouverture d'un vin effervescent, tout ce qui est service, la commercialisation. D'une carte des vins que les sommeliers ont préparé avec des contextes qui tireront au sort. Et voilà, donc on va dire que c'est 50-50. Voilà, après, c'est vrai que la pratique se joue vraiment au feeling, le jour de la pratique avec les grands sommeliers qui viennent évaluer nos apprentis. Ça joue un petit peu au feeling, donc voilà.
Quelles sont les différentes matières en mention complémentaire, sommellerie, Cassandra?
Alors, on avait un petit programme de gestion. Okay. On avait énormément d'anglais, surtout sur la connaissance du vocabulaire en anglais, ce qui peut être utile que ce soit en salle ou lors de rencontres avec des vignerons étrangers. Et après, on avait une après-midi complète en technologie sur l'œnologie, les connaissances des vignobles, les connaissances techniques sur le vin.
D'accord.
Je peux rajouter quelque chose?
Bien sûr.
Je pense que dans la logique des choses, en fait, à l'EPMT, la petite particularité dans notre établissement.
Je ne l'ai pas mentionné, vous êtes de l'EPMT, hein, mais il faut le dire.
L'EPMT, l'École de Paris des métiers de la table. Voilà. Et en fait, la petite particularité, c'est que on enseigne une seconde langue une fois par mois, qui est soit le chinois ou le japonais. On a deux formatrices qui sont très bien dans leur domaine. Et en fait, comme le milieu du vin s'ouvre beaucoup au milieu asiatique, on propose une heure de cours par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment pour avoir les bases, de pouvoir échanger là-dessus avec des clients asiatiques et avoir un langage, tout simplement.
Laurent, toi qui es polyglotte, tu pourrais ajouter le chinois, le japonais pour tes clients chinois, tu le parles un peu déjà, en fait?
Non, pas vraiment, non. Il y a bien longtemps que je ne parle plus les quelques mots de cantonais que je connaissais quand je vivais à Hong Kong. Mais effectivement, il y a une forte population asiatique qui visite les bars à vin, c'est clair. Maintenant, on arrive très bien à se débrouiller avec, enfin, pour ma part, entre l'anglais, l'espagnol et le français, évidemment. Ça couvre une bonne partie des besoins de la clientèle qui passe.
Alors, on a parlé des matières, mais est-ce que du coup, dans cette dimension de sommellerie, vous apprenez aussi les méthodes?
Il n'y a pas un petit peu de géographie aussi?
Mais voilà, c'est ça, géographie, enfin, la géologie.
Dans la partie technologique, il y a une partie œnologie, une partie législation et une partie géographie pro. C'est-à-dire que, bien sûr, on enseigne tout ce qui est région viticole française et européenne.
Alors, tu disais, Cassandra, tu vas raccrocher, ton objectif c'est de raccrocher sur un master avec une formation en alternance. Il faut que tu trouves l'entreprise, tu as déjà l'école, tu dois trouver l'entreprise qui va te financer les études et te faire une alternance. Voilà. Donc j'imagine que tu vas t'adresser à des entreprises de négoce, des grands négociants en vin. Quel bilan tu tires de cette année avant de te projeter sur la suite?
Déjà, j'ai fait une année en apprentissage. Où là, on apprend toutes les techniques de salle, la communication avec la clientèle, J'ai eu la chance d'être dans un établissement étoilé où on va dire que j'étais au Taïwan. Donc la communication avec la clientèle est différente que si on est dans le bistrot du coin ou dans le bar d'à côté.
Ou à une thérapie.
Par exemple, c'est pas le Taïwan. Hein, c'est pas...
J'y suis jamais allée.
Il va falloir venir.
Non, on a tous cette gestuelle. Oui, la manière de parler.
Est-ce que ça, les mots pardon, pour décrire un vin, c'est quelque chose qui est formaté en amont, c'est-à-dire le chef, la direction du restaurant dit « ce vin, je voudrais que tu le présentes comme ça » ou est-ce que le sommelier, il a quand même un peu son libre arbitre, sa présentation, sa façon d'exprimer, sa sensibilité quoi.
Il y a quand même deux écoles là-dessus. Il y a l'école où on est dans un étoilé comme le Taïwan, où c'est assez carré. On peut
pas... Quand il présente les plats, on a bien compris que c'était quelque chose qui était récité, entre guillemets, quoi. Qu'il y a un texte qui avait été écrit, qu'il y a une... En marketing, on parle de wording, mais bon, voilà, il y a des mots qui ont été choisis pour expliquer que l'infusion, l'émulsion, blablabla. Est-ce que sur les vins, c'est la même chose ?
C'est la même chose. On peut dire que c'est la même chose, sauf que on donne le texte. En fait, métier de sommelier, dans ce cas-là, on donne le texte. C'est un peu comme un métier d'acteur. On donne le texte, c'est à vous de jouer le rôle et de montrer qu'il n'y a pas de texte, qu'il n'y a pas de prompteur, que vous êtes capable de vendre naturellement. Moi, c'est pour ça que dans le métier de sommelier, en tout cas dans ce que j'enseigne, je suis pour que mes sommeliers aient carte blanche à la façon dont ils vendent et dont ils parlent au vin, au niveau du vin. Moi, j'ai une journée de pratique avec eux. Tous les jeudis, ils sont au restaurant d'application et je fais en sorte qu'ils aient carte blanche dans la façon... dont il s'exprime, sur la façon dont il s'exprime, pardon, au niveau des vins, et un peu plus détente. Et moi, je les rattrape au niveau du vocabulaire à utiliser, parce qu'il y a quand même des vocabulaires à ne pas utiliser, bien sûr.
Oui. On imagine. Ce vin, il pique un peu, mais c'est très bon. Tiens, Laurent, tu vas prendre la parole.
C'est plus nous, ça m'intéresse. Quand on était apprenti, le professeur nous disait oui, si ça vous amuse de dire que c'est glouglou entre vous, d'accord, c'est bien, mais vous dites pas que c'est glouglou, c'est un client. ça m'est resté.
C'est vrai que dans un étoilé,
excellent vin glouglou. Je dis pas que c'est glouglou, c'est un client.
Moi, je pense, enfin, ça m'amuse parce que ce sujet de la sommellerie, je l'ai découvert, moi, il y a assez peu de temps, hein, puisqu'il y a 3 ans, j'étais sur les bancs de l'Université du Vin à suivre donc une formation de sommelier conseil. Et ce qui était intéressant, puisque bon, on couvrait des sujets qui étaient très très proches de ce qu'on doit faire en mention complémentaire, l'approche que les différents professeurs avaient, c'est-à-dire selon qu'ils étaient œnologues ou sommeliers. C'est-à-dire que la façon dont on devait décrire les vins quand on était face à un œnologue et celle face à un sommelier n'était pas du tout la même. L'œnologue nous avait appris à décrire les vins, puisque pour nous c'était de la découverte. Hein. Donc on a commencé avec des œnologues qui parlaient de façon très très technique, comme des chimistes, hein, du vin avec son niveau d'acidité.
On m'avait dit, l'œnologue il cherche les défauts, le sommelier cherche les qualités.
C'est un peu ça. Et donc on a eu quelques cours avec juste un œnologue qui nous faisait parler des vins et on intervenait, on devait les décrire d'une certaine façon. Et un jour, c'est un sommelier qui est intervenu et qui nous a demandé d'écrire les vins. Et nous, on a pris bêtement le pli qu'on avait pris depuis quelques semaines avec nos œnologues. Et le gars nous dit mais ça va pas du tout. Mais il faut parler de ce vin. Faut pas rester parce qu'en fait, on avait un regard très détaché. Alors que l'idée, effectivement, quand on est sommelier, c'est de vendre le vin, c'est de mettre en avant ses qualités. Et donc, c'était très différent la façon de décrire les vins du sommelier par rapport à l'œnologue. Alors qu'on était dans la même formation, on avait deux profils de formateurs qui nous donnaient finalement des consignes assez différentes.
Les deux métiers entre œnologue et sommelier se réunissent, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, c'est que les œnologues, on va dire, voient les défauts du vin. Les sommeliers ne les voient pas et vendent le vin. Au contraire, on les voit, mais on contourne les défauts pour pouvoir le vendre. On est d'accord que pour vendre un vin, il faut connaître toutes les faiblesses. C'est comme un peu tout, il faut connaître les faiblesses pour pouvoir vendre le vin. Si on ne connaît pas les faiblesses, on ne peut pas le vendre. On connaît les qualités, c'est très bien. Mais des fois, les faiblesses peuvent faire les qualités du vin. Et ça peut être un bon atout.
Surtout pour l'accord mésévin, en fait.
Ah ouais. Ben voilà, transition parfaite, j'avais envie d'en parler, les accords, parce que c'est un des jobs quand même principaux du sommelier, c'est les gens ont choisi quelque chose, ils ont envie de manger quelque chose, on appelle le sommelier pour dire, voilà, quel est le vin que je pourrais boire avec ce plat. Cassandra, aujourd'hui, les accords, après un an de mention complémentaire, t'es tranquille. Tu conseilles toute la famille, dès qu'il y a un plat qui arrive, tu peux dire il faudrait mieux le boire avec ce vin.
Alors, oui et non, parce que les accords, mais les vins, tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. Faut savoir s'adapter. Si on a une clientèle plus âgée, une clientèle un peu plus jeune, en fonction des goûts de chacun. Le métier de sommelier, c'est de savoir décrypter ce que la personne en face de nous souhaite boire avec son accord. On n'a pas été tous élevés de la même façon. On n'a pas tous les mêmes goûts.
Donc c'est d'abord de l'écoute.
C'est ça. C'est de l'écoute et de la compréhension et un peu d'analyse.
Alors, du coup, les accords, comment on enseigne ça? Est-ce que c'est académique, Alexandre?
Non.
Le fromage du vin blanc, ça, on a bien compris.
Là-dessus, enfin, je pense que Cassandra peut parler là-dessus, c'est que je ne suis pas du tout le formateur académique là-dessus. C'est qu'il faut accorder les vins comme le sommelier le sent, ou le conseil, ou par rapport au goût des clients. C'est terminé, enfin, la plupart du temps, ça devient un peu ennuyeux de faire les mêmes accords en permanence. Moi, je suis un sommelier qui aime changer les habitudes des clients, quitte à changer des accords classiques, à sortir un petit peu du vin, plus partir sur un alcool ou autre chose, parce que dans les accords mets et vins, la plupart du temps, on oublie que on sait que le vin, c'est de l'alcool. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool. Donc, il faut s'adapter à ce genre de personnes, à ce genre de clients-là. On peut dire ça, pas de personnes, ça fait, voilà. De clients, de s'accorder, par exemple, en accordant, je ne sais pas, un jus de fruits, un thé, une boisson, un thé, un cormier et thé, café aussi, de temps en temps, qui peut être sympa. Justement, le but de la nouvelle génération de sommeliers, pour moi, c'est le sommelier qui s'adapte à toutes les situations et qui fait du renouveau au niveau des accords. Ce que j'enseigne à mes apprentis, c'est que moi, mon plaisir, c'est d'accorder tout avec n'importe quoi. C'est bête à dire, mais c'est le plaisir de faire des accords que on n'aurait pas osé faire par le classique.
Oui, une des tendances, et je crois que c'est Pascaline Le Pelletier qui en parlait récemment, qui a été élue meilleure sommelière de France, quoi, c'est ça ?
Oui.
Et c'était de dire effectivement, il y a des fondamentaux, des classiques, et aujourd'hui, faut prendre un l'air du temps et surtout la température du client. C'est-à-dire que d'abord, est-ce qu'il est dans un dîner amoureux ? Est-ce qu'il est avec un pote ? Est-ce qu'il est dans un repas d'affaires ? Et donc d'essayer d'être éponge d'un petit peu son environnement. Et là, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le métier de sommelier malin, c'est de pouvoir capter cette ce côté expérientiel, en fait. C'est l'expérience du moment, qui j'ai, c'est quoi son humeur et avec qui il est, et de faire l'accord créatif en fonction de ce ressenti. Donc je pense que c'est là où le métier maintenant prend toute sa valeur, en dehors des trucs hyper classiques. Et donc il faut avoir la connaissance pour être effectivement s'adapter à l'instant présent, alors qu'avant peut-être qu'on était plus dans l'académique, ouais. Et qu'il fallait ressortir avec ça, t'as ça et ça, et on était plus dans une accumulation de connaissances.
Et on est surtout sur un public de plus en plus amateurs de vin. De nos jours, c'est plus on va dire les amateurs sont plus développés à s'y connaître au niveau des vins. C'est pour ça que tout ce qui est école d'œnologie, de dégustation se développe là-dessus. Et d'où l'intérêt de former nos nouveaux sommeliers au fait qu'on peut accorder tout et de se faire un plaisir de sortir un peu du classique. Parce qu'en sortant du classique, on peut faire des accords qui sont magnifiques et on s'y attend même pas.
On a servi un deuxième vin. Parce qu'on aime bien ouvrir des bouteilles dans cette émission. Là. Les habitués commencent à connaître.
J'ai ramené deux coups de cœur ce soir. Le deuxième coup de cœur, on est chez Monsieur Jean-Luc Colombo dans la vallée du Rhône, avec la Rhodone. Et on est sur un millésime 2016. On est sur un Viognier à 70%. Le reste de Roussanne. Donc voilà un petit coup de cœur. Pourquoi le Jean-Luc Colombo? Parce que le PMT et M. Colombo, nous travaillons ensemble depuis 3 ans maintenant. Et c'est un homme avec un grand cœur. Ça fait 3 ans qu'en fin d'année, j'organise une sortie avec mes apprentis juste avant les diplômes, les passages des diplômes, juste avant les examens, histoire de faire un petit moment de détente. Et à chaque fois qu'on a été reçu chez lui, c'était très pédagogue pour les apprentis. J'ai pu même entraîner certains de mes apprentis pour des concours ou pour leur examen. Et il a permis, ils ont pu déguster les vins en direct à l'aveugle devant M. Jean-Luc Colombo qui les a rattrapés sur la dégustation, etc. Donc, homme au grand cœur et très pédagogue lorsqu'il nous reçoit sur son domaine.
Jean-Luc Colombeau, on avait parlé de lui en Cornas, hein, sur la vallée du Rhône.
Mais voilà, c'est ça, ce nom me disait quelque chose.
Et c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu emblématique de la région et qui évolue un petit peu vers le bio, on va dire une approche biologique aussi depuis 5 ou 6 années. Oui, et sa fille, je crois, reprend les rênes et continue, Laure Colombeau, et reprend les rênes dans ce sens.
Pour parler jeune, qui ne kiffe pas Colombeau en Cornas, quoi? Parce que Colombeau-Reynard, allemand, c'est Colombeau et allemand, c'est les deux. En Rhône-Nord,
c'est les vedettes.
C'est les deux vedettes de l'appellation sur Cornas.
Cassandra, comment tu décrirais ce vin? Je ne sais pas si tu le découvres, si tu le connais déjà.
Alors, celui-ci, c'est la première fois que je le goûte. Vous savez qu'on est sur un vin, comme le thème de l'émission, plutôt pédagogue, on est sur un vin plutôt simple à comprendre. On est sur ces arômes de fruits blancs très frais. On est sur un vin très vif. On a en fin de bouche des légers amers, des amers plutôt nobles qui viennent vraiment faire saliver la bouche et qui ouvrent l'appétit lors d'un repas ou en accompagnement avec, moi je verrais bien ça avec un poisson tout simplement, un poisson juste grillé à la plancha avec une petite sauce au citron.
C'est vrai que l'équilibre est pas mal. Après, il y a de la matière quand même. On sent bien, on sent la présence du vionnier, mais elle n'est pas écœurante. Donc, c'est assez bien fait. Hein, parce que Roussanne et vionnier, on est quand même sur deux cépages qui envoient quand même un peu du lourd en général. Mais là, c'est bien fait, bien équilibré.
Pour parler caviste, on n'est pas sur un vionnier extrêmement exubérant.
C'est ça.
On est dans quelque chose de discret. C'est très bon. Hein, C'est très fin, en effet.
Ça s'est bien équilibré pour deux cépages qui sont quand même riches de manière générale, quoi. Oui. Donc c'est un assemblage bien réussi.
C'est bien fait, c'est une belle forme. Vraiment, c'est très agréable comme vin. Moi, j'ai le sourire pendant que Cassandra parlait du vin parce que je ne sais pas combien d'auditeurs écoutent votre podcast. Beaucoup, j'espère.
Des millions, bien sûr.
Des millions, bien sûr.
L'important, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux.
Ils sont tous à la porte, là, ils essaient.
Mais en fait, je dis ça pourquoi? Parce que sur quel terrain je vais amener Cassandra, c'est que Cassandra a fait un concours meilleur apprenti de France où elle est arrivée médaille d'or régionale.
Bravo!
Et au mois d'octobre, le 23 octobre, on va à la finale à
Nantes.
Voilà, j'avais un trou de mémoire. Et justement, un peu comme dans le profil du meilleur sommelier de France, où elle va devoir faire une dégustation devant tout le monde. Bon, on a un petit comité à table, mais on lève le rideau de ce qu'il y a derrière le micro. Je pense que ça change de comportement de la part de Cassandra, mais c'est un très bel exercice et elle nous a fait une très belle dégustation. On est plusieurs professionnels à table, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que la commercialisation...
C'était impeccable. Mais alors, du coup, alors là, tu me lances sur un sujet, les concours, moi ça me fascine cette histoire, le croisement entre les sportifs et le vin.
Les mecs bourrés.
C'est ça que tu... le moins possible.
C'est un croisement improbable.
Cassandra, comment on se prépare un concours de sommellerie? Parce que là du coup, 23 octobre, c'est ça?
C'est ça.
Tu vas faire une finale nationale. Voilà, donc tu as déjà remporté certaines de ces épreuves. Comment ça se passe concrètement, les épreuves de sommellerie?
Donc on a des épreuves écrites et on a également des épreuves pratiques. Donc les épreuves écrites ressemblent plus ou moins à nos épreuves de mention complémentaire. Après, nos épreuves pratiques le ressemblent aussi, mais avec des exigences un peu plus élevées. On a notamment des dégustations à faire oralement, on a des décantations, des carafages, une commercialisation. On s'y prépare tout simplement en s'entraînant, en travaillant. En travaillant un peu plus que les autres, en travaillant à la maison, au travail, avec ses maîtres d'apprentissage. Voilà.
Tu proposes des formulations, des façons de présenter.
C'est quoi une commercialisation, pardon? C'est quoi
une commercialisation, c'est tout simplement avoir un client devant soi et donc réaliser un accord, mais en fonction du menu qu'il a choisi.
Est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques, un peu des astuces pour... Alors, reconnaître un cépage, reconnaître un assemblage, savoir situer un vin, est-ce qu'on a des tips, des trucs?
Alors moi, généralement, j'apprends par cœur.
D'accord.
Je connais ma carte de France par cœur et je sais replacer les appellations dans leur région. Après, pour reconnaître un cépage, il n'y a pas de secret, il faut goûter. Il faut boire un maximum de vin, faire la différence, il n'y a pas de secret.
C'est du boulot, quoi.
Ouais, c'est du boulot.
Il faut boire.
Il faut boire. Il faut déguster, mais il faut cracher aussi.
À côté, tu cours.
Je te vois venir, Patrice, il faut cracher également.
Oui, tout à fait.
Ouais. Bon, c'est un côté sportif quand même. On reste des sportifs, même si ça, par chance, par la radio, ça ne se voit pas. Mais on reste quand même des sportifs.
Là, vous êtes affûté.
Oui, il y a du travail. Du travail derrière. Mais après, Cassandra n'est pas la seule d'Île-de-France. Il y a quand même eu 3 médailles d'or régionales au MAF Sommellerie. Une que je salue avec Christophe Husson du CFA Médéric. Et deux, le PMT, Cassandra et Timothée, qui n'a pas pu être là parce qu'ils travaillent ce soir. Mais voilà, je suis content que, en plus, ça fait un petit cocon, ils s'entraînent ensemble, ils se côtoient beaucoup. Donc, c'est plutôt sympathique d'avoir trois apprentis en plus d'Île-de-France et de Paris, d'une région qui à la base, n'est pas viticole. Et voilà, donc...
Il y a combien de personnes, du coup, au concours, là,
au national,
ouais.
Je sais plus, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, 10, 15, je crois, 12.
Ouais, ah, donc, bah, un quart du panel, quand même, c'est pas mal.
Un quart du panel, c'est...
Eh ben bravo, on te souhaite plein de bonnes choses, on va suivre ça de près du coup là.
Si je peux dire sur un point formateur, justement, le côté formateur, c'est aussi le plaisir qu'on a de voir évoluer nos apprentis. On les forme, on les voit, je ne dis pas Cassandra, je la connais depuis que la mention sommellerie, mais il y a certains apprentis, parce que j'enseigne la sommellerie, mais je suis aussi formateur en salle, en service en salle à l'EPMT. Et il y a des apprentis que je vois tout bébé, que je vois grandir et que je vois évoluer, comme Cassandra qui évolue très bien et qui gagne des concours. Et c'est là où ça arrive, enfin où le plaisir de ce métier-là.
C'est l'aboutissement.
C'est l'aboutissement. Et le but d'un formateur, c'est toujours de faire passer ses apprentis avant lui. Et le but du jeu, c'est qu'à partir du moment où mes apprentis sont contents de ce qu'ils font et qu'ils y arrivent, moi, mon job est fait, il n'y a aucun souci.
Quelle fierté, j'imagine.
Ah, j'ai une fierté entière envers mes apprentis et ils le savent. Ils le savent tous.
La preuve, ils t'accompagnent le soir dans des podcasts.
Et à l'apéro aussi.
De bonne grâce.
Mais voilà, c'est le plaisir d'être formateur, c'est d'accompagner nos élèves et nos apprentis jusqu'au bout.
On retrouve l'idée de la transmission. Hein. C'est-à-dire que tous les vignerons, ils sont quand même super contents quand leur fils, leur fille.
Ouais, tout à fait.
C'est un peu ce côté passeur en fait qu'on retrouve effectivement dans la transmission du savoir et le fil conducteur du savoir et de la passion, quoi.
J'ai noté quelque chose. Tu as parlé d'un restaurant d'application. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut venir manger.
Oui.
On peut être client. Il y en a comme ça dans toutes les écoles de les écoles hôtelières. Oui. Généralement, il y en a pas mal à Paris et puis ailleurs. Donc le PMT, on peut venir manger le midi, le soir.
Alors on peut, pour l'instant, le midi, en allant sur le site de l'école, on va avoir des dîners qui vont apparaître au cours d'année. Petite dédicace pour le jeudi midi, parce que c'est le jeudi où il y a les sommeliers qui sont présents, où ils vous proposent un petit menu à corps mais vin. C'est-à-dire un petit verre de vin avec chaque plat, en rappelant que ça reste une école hôtelière, donc les prix ne sont pas exorbitants non plus. Et le but du jeu, c'est de s'amuser avec les sommeliers, de vous faire découvrir à l'aveugle, aux amateurs qui viennent déjeuner ou aux clients classiques, de s'amuser un petit peu en faisant découvrir ce que les clients ont dans le verre et de rester sur un côté commercial et d'apprendre à vendre le vin.
Formidable.
Moi, je connais pas beaucoup cet environnement, mais je suis allé chez Vatel également, oui. Où c'est l'apprentissage du service. Et c'est assez rafraîchissant de voir ces gens, ces personnes, ces jeunes qui sont hyper motivés et un peu hésitants. Mmh. Et c'est vrai que leurs hésitations sont assez rafraîchissantes au sens. Mais c'est vrai. Dans le service, ils sont peu. Non, mais c'est vrai. Il y a un côté. C'est pas présomptueux. C'est autant, encore une fois, c'est une question d'authenticité. Quoi.
Et c'est hyper nature. Ils débutent tous dans toutes les étapes. C'est-à-dire que celui qui va dresser l'entrée, qui va couper le poireau, c'est un apprenti. Celui qui va vous le servir, c'est un apprenti.
Et ça, couper le poireau, c'est quand même important.
Celui qui va venir vous proposer un verre de vin pour aller avec, c'est un apprenti. Bon, c'est des apprentis du début jusqu'à la fin. Voilà.
Mais je suis sûr qu'on peut bien manger.
Et on mange très bien.
Pour des prix, effectivement, qui n'ont rien à voir avec
chez Vatel,
hein,
c'est aussi pour ça, parce qu'on mange bien pour...
Et le plaisir des restaurants d'application, quelque chose qu'on dit de plus en plus rare, là on va dire que c'est plus le formateur de service en salle qui parle que le formateur en sommellerie, mais on a toujours le plaisir de faire des découpes, des flambages en salle, des choses qui sont oubliées dans la plupart des restaurants de Paris. Les apprentis demandent pourquoi on essaye toujours ces matières-là. Ces techniques-là, c'est que ça va servir à un moment ou à un autre. Et en salle, on a un tel plaisir de faire les flambages, les découpes. Et quand on s'est accordé avec des bons vins, avec des bons accords, mais vins,
C'est l'expérience. Enfin, c'est pour le consommateur, c'est une expérience aussi de vivre.
Oui, c'est ça.
C'est près de Porte de Champéret ou pas, le PMT,
si je me trompe. 17 rue Jacques-Hibert, la Porte de Champéret.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pas à côté du bureau en plus, génial.
Okay, voilà. Tu me dis, on échange les coordonnées.
Pour les auditeurs parisiens, voilà, 17e arrondissement de Paris, voilà, Porte de Champéret.
Il faut qu'on s'organise ça.
Porte de Champéret, et voilà, vous êtes les bienvenus pour faire une dégustation, bien évidemment.
Donc le jeudi midi.
Le jeudi midi avec les sommeliers. Et sinon, toute la semaine, sans les sommeliers, avec une carte des vins qui a été créée par les sommeliers. Mais le moment le plus plaisant, c'est lorsqu'il y a les sommeliers, quand même.
Bien sûr.
Parce que pour les amateurs de vin, c'est
Ah bah oui, on va le dire quand il y a des sommeliers.
Juste une question, peut-être avant d'aborder le troisième vin qui passe sur la couleur rouge. Est-ce que, justement par rapport à l'arrivée des vins un petit peu nature, avec des goûts de souris, avec des goûts un petit peu déviants, est-ce qu'il y a comment vous faites-vous? Vous dites, c'est déviant,
c'est dégueu.
Est-ce qu'il y a une nouvelle approche?
C'est une vraie question.
Non, mais parce qu'on change les périmètres du goût, on en a parlé.
Est-ce que vous
on sort des paradigmes, on sort des fondamentaux en termes de connaissances classiques ou d'approche gustative du vin. Parfois.
Après, je ne cache pas que en tant qu'informateur en sommellerie, on reste sur le classique. Tous les vins nature, on approche plus la biodynamie que le vin nature. Voilà, parce que rares sont les questions sur les vins nature. Il suffit que j'en parle pour que cette année, il y a une question là-dessus. Mais voilà, on reste classique. Après, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le milieu du vin, c'est un milieu qui est en permanence, sur lequel on doit apprendre en permanence. C'est-à-dire que le vin nature, s'ils l'apprennent sans moi en dégustation extérieure ou dans leur entreprise, la chance qu'il y a, c'est que ce sont des apprentis. Je rappuie sur un point, c'est que l'alternance, pour moi, il n'y a rien de mieux pour apprendre le vin. C'est-à-dire qu'étant en cours et en entreprise, on apprend énormément. Et je souhaite que tout ce qui est nature ou un peu particulier au niveau de la vinification ou des vins en général, ils l'apprennent en entreprise, découverte en entreprise. Moi, je reste plutôt classique, sauf si je vais faire des dégustations sur Paris particulières. Mais je veux que... En cours, on reste classique. En entreprise, on peut découvrir plein d'autres choses. Et justement, ils échangent entre eux après leur savoir.
Moi, je m'étais posé la question, est-ce que vous faites goûter des mauvais vins exprès? Pour dire aux gens, ça, c'est un vin qui est raté. Pour dire aux élèves, aux apprentis, ça, c'est un vin qui est raté. Voilà. Il manque un truc.
Les défauts,
il a un défaut énorme. Est-ce que vous le repérez? Voilà le défaut.
Alors, je peux le faire goûter. Je ne me souviens pas l'avoir fait avec vous, Cassandra. Non. Je peux l'avoir fait. Mais par contre, sur une analyse sensorielle, si à l'aveugle, parce que l'épreuve d'analyse sensorielle en sommellerie, c'est une épreuve qui est écrite. Quand je les entraîne, je refuse qu'ils me disent ce vin-là est bouchonné, etc., puisque ça reste une analyse sensorielle. L'analyse sensorielle, c'est pour analyser le vin, qu'il soit bon ou pas bon, qu'il soit bouchonné ou pas. Justement, c'est pour donner un résultat sur une feuille de dégustation. Le côté bouchonné, si j'en ai un, oui, je suis capable de leur faire goûter sans aucun souci, parce que c'est comme ça que
alors, il y a bouchonné, mais il peut y avoir d'autres types de défauts,
oui,
les brettes,
l'oxydation
excessive.
Bien sûr.
Réduction
aussi. Voilà. Après, si je tombe sur un vin, si un jour j'ouvre un vin au restaurant d'application qui est bouchonné, je vais le regarder pour qu'il le goûte et le découvre. Je fais en sorte qu'il découvre. Après, de toute façon, dans cette carrière-là, ils le découvriront forcément.
Alors, on va passer au troisième vin. C'est qui?
C'est
Florence.
Florence.
C'est moi.
C'est la fin. Hein.
Donc, c'est les Cresses. Mm-hmm. Pourquoi j'ai choisi les Cresses? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait l'orage.
Oui.
On a fait l'orage.
François Midjaville, à Bordeaux.
Oui, Louis Midjaville.
Louis Midjaville, pardon. François, c'était le papa.
Voilà. Donc ça, en fait, les Cresses, c'est Philippe Chénon, c'est le cousin. Voilà.
D'accord, mais c'est, si j'en crois la forme de la bouteille, c'est pas un cousin bordelais, ça?
Non, c'est pas un cousin bordelais, on est dans le Languedoc.
Voilà.
Donc sur cette cuvée-là, il y a deux cuvées, hein. Il y a les Cresses et les Brunes. Donc je vais surtout parler des Cresses parce que c'est mon coup de cœur.
C-R-E-I-2-S-E-S.
Voilà, les Cresses, on est sur 50% de Syrah, 40% de Grenache, donc jusque-là ça colle bien côté Languedoc, et 10% de Cabernet Sauvignon. Donc c'est ces fameux 10% qui font que le vin est classé en vin de pays d'oc et non pas en appellation, comme il aurait dû être. Faut savoir qu'on se dit, ah tiens, Cabernet Sauvignon, mais Cabernet Sauvignon, il n'y a pas très longtemps que ça a été planté. Non, non, ce n'est pas le cas sur le domaine. Le Cabernet Sauvignon était des vignes qui avaient été plantées par le grand-père, donc ce n'est pas tout récent. Mais j'en reviens à Midjaville parce que quand il a repris les vignes, il s'est entraîné au domaine chez Midjaville avant de se lancer sur le domaine dans le Languedoc. Donc Midjaville a été de bons conseils auprès de lui. C'est un Saint-Émilion languedocien, si on peut faire un raccourci. Voilà. Mais voilà, c'est un vin que j'apprécie beaucoup.
Est-ce que c'est un Saint-Émilion du Languedoc? Moi, je trouve ça super joli.
Pas Saint-Émilion, mais...
C'est non. Ce que tu as dit, Florence.
Bordelais,
dit...
ouais. Bordelais.
Moi, j'aime le côté épicé là, qui ressort.
C'est la Syrah.
Il y a du fruit, il y a de l'épice. C'est assez complexe au nez. Moi, c'est ce qui me plaît.
Il y a les pistes de la Syrah, il y a le fruit de la Grenache, il y a la structure du Cabernet Sauvignon. Je trouve que tout ça se marie bien.
Et une fois en bouche, on a quelque chose qui est quand même très... qui a du caractère, mais qui reste assez facile à boire. Hein. Y a pas,
c'est soyeux.
On profite dès maintenant de ce... Je ne sais pas quel millésime...
dès maintenant, parce que là, c'est le 2017, mais c'est vrai que j'ai d'autres millésimes plus anciens. Et ce qui est assez magique avec ce vin, c'est que très jeune, ça se goûte bien. Et un peu plus vieux, ça se goûte toujours bien.
Oui, non, mais là, c'est déjà tout de suite très, très, très plaisant.
C'est ça qui est cool, c'est que c'est facile à boire dans sa jeunesse et que ça gagne en complexité en vieillissant et que... voilà, on a toujours beaucoup de plaisir, quels que soient les millésimes.
Alexandre, tu connaissais ce vin ?
Oui, parce que dans mon passé professionnel, je l'ai travaillé.
Dire que tu travaillais dans un restaurant qui avait ce vin-là à la carte.
De temps en temps, les profs travaillent.
Oui, j'imagine. Quand on est prof de sommellerie, c'est qu'on a été sommelier soi-même, j'imagine.
J'ai été sommelier pour Alain Dutournier pendant 3 ans. Et Monsieur Dutournier, étant un Gascon de pure souche et qui est très amateur, c'est lui qui m'a fait découvrir et avoir le goût des vins du Languedoc-Roussillon sud-ouest, et les Crèces en l'occurrence faisaient partie de la carte des vins que je travaillais avec lui. Et on va dire, Florence a très bien choisi ce vin pour un vin très pédagogue, parce que ça sort, comme je disais tout à l'heure, des sentiers battus avec la Bourgogne, le Bordeaux. Ça fait découvrir la vallée, le Languedoc-Roussillon, pardon, qui est une région viticole qui demande à être connue et de plus en plus connue. Plus que ça donne des vins très agréables comme celui-ci, et c'est un très joli vin que j'apprécie. J'ai aussi un petit coup de cœur pour les brunes, j'ai aussi un petit coup de cœur pour Midjaville, etc.
Parce qu'il y a une autre cuvée, donc il y a les brunes, et la différence avec les brunes, c'est qu'on est sur une majorité de Cabernet Sauvignon, donc c'est plus typé bordelais que les Crèces. Et moi, c'était mon but, c'était de pas de prendre la cuvée typée bordelais et de prendre la cuvée un petit peu plus typée Languedoc.
Rappelle-nous, on est où là géographiquement ?
Languedoc.
Mais où ?
Dans l'Hérault.
Dans l'Hérault, d'accord. Donc, s'il avait une appellation, on serait dans les Grès de Montpellier, dans les Pics Saint-Loup, Terrasse du Larzac, ce genre de choses là ou...
Ouais, je crois qu'on sera en Coteau du Languedoc.
Coteau du Languedoc, d'accord.
Ce qu'il y a dans le Languedoc, c'est qu'on on arrive à trouver de plus en plus des... Enfin, après, il n'y a pas de canon absolu dans les vins. Enfin, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des vins équilibrés entre le taux d'alcool, l'acidité, la complexité. Et effectivement, ce qu'on trouvait de manière assez absolue en Bourgogne et en Bordeaux, qu'on retrouve de plus en plus en Languedoc, c'est cet équilibre entre richesse, acidité, tension, complexité. Enfin, voilà, c'est l'équilibre, quoi.
Ce qui est chouette, c'est que le fruit est bien frais et pas trop confituré, et que les tanins sont présents, mais sont très fins, sont très souples et n'ont pas de côté dur. Je te laisse donner ton avis personnel.
Cassandra, si on te propose ce vin à l'écresse à ton épreuve du 21 octobre, qu'est-ce que tu vas en dire ?
Pour moi, c'est un vin, on a cette gamme aromatique des épices. On est sur un vin qui est... Enfin, le vin, il est très épicé quand même en bouche. On a ces fruits qui reviennent sur la finale avec cette acidité qui apporte une certaine fraîcheur au vin. C'est un vin rouge qui pour moi, s'accorde facilement avec une volaille, comme une poulette cuite, je sais pas, roulée dans des céréales pour apporter ce croustillant, ce côté un peu torréfié, qui pourrait aller avec ces épices, avec juste quelques légumes poêlés ou des petites pommes de terre, comme on connaît tous. Juste des pommes de terre sautées au beurre avec ces échalotes.
On va sortir la poêle parce que j'ai faim.
Voilà, c'est superbe.
Merci.
Bravo, hein, bravo, joli exercice, parce que là, improviser les petites pommes de terre au beurre. Là,
c'était la première fois que tu pommes de terre en plus.
Celui-ci, oui. Ouais.
Voilà. Donc, faut quand même,
c'est une belle découverte. Merci Florence.
Félicitations parce que c'est quand même la première fois qu'elle le goûte. Donc quand on est jeune sommelier et que c'est la première fois qu'on goûte un vin, sortir un commentaire comme ça, je peux vous dire que c'est compliqué, c'est pas évident. Et donc voilà, bravo, félicitations.
Bravo Cassandra et bravo au professeur Alexandre. Là.
Bah, moi j'y suis pour rien, je donne juste mes conseils et mon expérience à mes apprentis. Après c'est eux, ils l'apprennent, ils l'utilisent comme ils veulent.
Est-ce que le plus souvent tu vois arriver des gens, des élèves, des jeunes qui ont déjà la passion dans les yeux, ou est-ce que le fait de travailler cette matière va éveiller, enfin comment ça se passe en termes de... Il y a une matière, il y a quelque chose qu'on apprend et qui nous intéresse. Et puis, il y a cette espèce d'étincelle là où à un moment, c'est comme un virus. Voilà, on devient vraiment accro à vouloir déguster plein de vins, à vouloir goûter plein de vins, à collectionner les vins. Voilà, cette étincelle-là, est-ce qu'ils l'ont quand ils arrivent ou est-ce qu'ils l'ont quand ils repartent ou les deux ou comment ça...
Alors la particularité de cette formation en sommellerie, en fait, quand on fait une mention complémentaire ou il y a un autre diplôme qui s'appelle le BP sommelier qui est un peu plus évolué que la mention, généralement les jeunes qui choisissent de faire cette formation, c'est qu'ils veulent faire cette formation.
Ils ne sont pas là par hasard.
Ils ne sont pas là par hasard. Généralement, c'est des personnes qui ont, c'est des apprentis pardon, qui ont entre 18, je sais que l'année dernière j'avais un apprenti qui était un peu plus âgé que les autres, qui faisait une reconversion, on approchait pas loin des 60, hein, vraiment, qui faisait une reconversion, qui avait le plaisir. Et après, quand on fait la sommellerie, contrairement à d'autres, moi je compare la sommellerie avec les chocolateries. On tombe pas dedans par hasard, c'est qu'on a envie de faire cette formation, on a envie d'avoir des connaissances, on a envie de développer sa culture générale et voire même avoir une expérience professionnelle dans le vin.
Quand ils, et au bout d'un an, ils sont pas saoulés. Enfin, je veux dire, il y en a pas qui.
Ah, une fois par jour, si, ils sont saoulés.
Il y en a qui arrivent avec l'envie et puis finalement qui sont déçus ou non. En
alors,
général,
généralement, ils décrochent vite, ils arrêtent vite parce qu'ils remarquent la quantité de travail qu'il y a à fournir, à apprendre pour l'examen. Comme j'ai dit, le vin ça prend toute sa vie, mais les formations en sommellerie, c'est vous avez un an, deux ans pour certaines formations à encaisser un maximum d'informations.
C'est énorme.
Et là où ils commencent à craquer, c'est quand on commence à donner les premiers examens blancs, les premiers sujets d'examen blancs, exemple de ce qu'ils vont avoir à l'examen. Et c'est là qu'ils se disent c'est quand même assez, assez complexe à savoir. Il y a des questions. Voilà, je ne vous le cache pas, j'ai eu le premier cours avec le cru 2020 de mes sommeliers ce matin et je leur ai montré un exemple d'examen qu'ils pouvaient avoir à la carte. Et j'ai commencé à en perdre quelques-uns, démoralisé, mais ça, je pense que cette année, j'ai un bon cru aussi. Donc voilà.
Merci beaucoup Alexandre Le Sieur, merci Cassandra Delorme. On va te suivre, Cassandra, pour ton concours donc, de fin octobre. Moi, je pense qu'on va revenir, les amis, sur cette histoire de concours.
Il y a un site internet pour suivre le concours en live ou
Non.
Ils ont des traceurs GPS pour savoir où ils en sont du parcours.
Non, je sais pas.
Comment on voit
en direct live sur Facebook, peut-être sur mon Facebook, mais je pense pas que Cassandra apprécie. Elle aime pas grand. Voilà. Mais on vous tiendra au courant des résultats. Et de toute façon, il y aura. Nouveau cru, nouveau candidat, nouveau concours. J'ai déjà pas mal d'apprentis en liste de départ pour l'année prochaine. Et absolument pour les amateurs de vin et les apprentis, futurs apprentis sommeliers de Paris, sur les trois écoles qui présentent des apprentis sommeliers, allez-y, faites un concours. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Même si vous n'arrivez pas à médaille d'or, même si vous avez aucune médaille, vous avez l'expérience, vous avez les contacts, puisque le métier de la sommellerie, c'est quand même du contact et du vin, c'est du contact. Donc je pousse.
Même pour le meilleur apprenti restaurant pas aussi, spécialement en sommellerie, franchement, allez-y, tentez le concours. C'est en fait, c'est un moment agréable, c'est un moment plaisant, c'est pas compliqué, c'est pas dur, c'est pas stressant. Et vous ressortez de là, vous avez une expérience supplémentaire et vous avez parlé à plein de gens dont vous n'auriez pas eu l'occasion de parler. Et ça peut vous ouvrir plein de portes qu'on n'aurait pas imaginées.
Tu es une ancienne élève de l'EPMT.
Non, suis une prof. une jury d'examen pour le mention complémentaire. Pour le meilleur apprenti de France.
Par contre, moi, je suis un ancien apprenti de l'EPMT. C'est pour ça que j'ai fait le tour du globe et je suis revenu à la source. Je valoriserai toujours l'EPMT parce que c'est une école coup de cœur pour moi. J'ai grandi professionnellement là-bas. Je continue à grandir en tant que formateur là-bas, mais l'EPMT est une très bonne école. Mais je sais pourquoi Flo parle du MAF Restaurant, c'est que j'ai un de ses apprentis en bac pro, comme je vous ai dit, je suis aussi formateur en salle qu'on va préparer ensemble avec Flo qui effectue son apprentissage à la Truffière et on va le préparer tous les deux à son concours du MAF.
On lui met la pression.
On va lui mettre la pression direct, il va entendre ça, il va se mettre en boule.
Il parle d'un poulain quoi, c'est vraiment
celui-là poulain.
On va te le préparer.
C'est
poulain.
Et bientôt ce sera Neymar.
Voilà. Oui, il ne sera pas au sol avec un mal de cheville. Avec un mal de tête peut-être, mais un mal de cheville non. Mais voilà.
Merci infiniment à vous deux, Alexandre et Cassandra, de nous avoir parlé un petit peu plus de cet aspect formation, comment on apprend le vin, où est-ce qu'on l'apprend. On l'apprend par exemple à l'école de Paris des métiers de la table, un endroit où on peut également manger, on est servi par des apprentis. Les apprentis ont fait la cuisine, des apprentis vous présentent des vins, notamment le jeudi midi. Et ça fait une bonne idée de déjeuner pour jeudi midi si vous habitez Paris. Laurent.
Et puis si on a envie de faire une formation dans la reconversion, il y a toujours l'Université du vin de Suze-Larousse. Oui. Qui propose un très...
Suze, c'est super, mais c'est loin.
Pardon.
C'est vrai, c'est dans le sud.
C'est
ouais.
super, c'est loin. Des écoles, c'est mais c'est loin.
C'est loin, mais c'est au cœur du vignoble.
C'est pas très loin pour ceux qui habitent dans le coin.
Et c'est vraiment top.
Sinon, au cœur du périph, il y a le PMT.
Voilà. Il voilà. y a l'option, on reste à Paris ou on va dans le vignoble.
On n'a pas été exhaustif des formations, il y en a des tonnes. Voilà, là, on a choisi de parler de le PMT.
Je peux juste citer une association qui me tient à cœur, qui sont les TOC françaises, parce que j'en fais partie. Je suis membre professionnel des TOC françaises et cette association qui met en valeur les métiers de bouche et les produits, bien sûr, et surtout la formation. C'est pour ça que j'ai rejoint cette magnifique association. Je fais aussi partie de l'association des formateurs en sommellerie de France. Ce sont deux associations qui me tiennent à cœur, bientôt au service. Et voilà, c'est vraiment les TOC françaises et c'est toutes ces associations-là que je vais citer qui mettent en valeur la formation de nos jeunes dans nos métiers, que ce soit la cuisine, la salle et la sommellerie, bien sûr. Donc voilà, je souhaitais faire un coucou au président de toutes ces associations qui vont se reconnaître.
Voilà qui est fait, les TOC françaises. On a goûté trois vins aujourd'hui. Je vais les rappeler rapidement. Le premier, c'était Dom Paris de la Winery parisienne, donc un pétillant à base de Vermentino. Ensuite, on a bu un vin blanc du Rhône Nord de Jean-Luc Colombo. C'était du Vionnier de la Roussanne, si je n'ai pas oublié depuis tout à l'heure. Et enfin, on a fini avec un rouge. Donc, les deux premiers étaient des blancs, évidemment. On a fini avec un rouge, les Cresses en Languedoc, vin de France. Florence, c'est ça. Vin de pays de l'Hérault. Vin de pays d'Oc, vin de pays de l'Hérault. Disputez-vous. Ça s'appelle les Cresses. C'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile à trouver. Les Cresses,
c'est excellent. Ça s'ouvre de plus en plus.
Deux S, ouais, et c'est superbe. Et je suis ravi qu'on termine avec ce joli vin-là. Merci à tous. On se retrouve dans une paire de semaines pour un nouvel épisode de La Terre à Boire. Les vignerons sont passés au moment où on va diffuser cet épisode. Les vendanges sont passés. Et les vignerons sont face à leur cuve pleine et ils sont en train de goûter leur jus pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça va dans la bonne direction. Ils sont tous stressés.
Des jus pas très 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 généreux malheureusement cette année.
Des problèmes de grêle.
On verra.
On voit quand même qu'il y a eu grosse sécheresse et dans beaucoup d'endroits et que les grains sont quand même très petits et qu'il n'y a pas beaucoup de jus.
Ça peut-être donner des jus très concentrés.
Oui, ça peut donner de belles choses. Mais ça va pas être très continue. Généreux.
Mmh. Une histoire sans cesse renouvelée, celle du vin. Chaque millésime apporte sa nouvelle
son lot de surprises plus ou moins heureuses.
Voilà. Merci à tous.
Merci.
Allez, à bientôt. Salut.
Au revoir.
Bye bye. Au revoir. Thank you.